France Culture.
On fait le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Il est des heures de vérité décisive et celle-ci en est une. Déclaration signée François Bayrou ce matin lors d'un comité d'alerte du budget. Le Premier ministre estime notamment que la politique de retour de la production et de réindustrialisation doit devenir une obsession pour notre nation. On tâchera de comprendre ce qui se cache derrière cette injonction du gouvernement. On en parlera également avec notre invité aujourd'hui, le député du Rassemblement National Jean-Philippe Tanguy, membre de la commission des finances de l'Assemblée. L'actualité aussi à l'étranger, on reviendra tout d'abord sur deux années d'une guerre civile dévastatrice au Soudan. On s'intéressera par ailleurs à ce mouvement de sédition en Israël contre la politique jusqu'au boutiste du gouvernement Netanyahou à Gaza. Enfin, on verra comment la nouvelle administration américaine entend remettre en cause la liberté académique. Après 4 mois déjà passés à l'hôtel Matignon, François Bayrou, souvent taxé d'être trop peu actif, va-t-il enfin faire mentir tous ceux pour qui l'immobilisme serait chez lui comme une seconde nature? Le Premier ministre présidait ce matin un comité d'alerte sur le budget réunissant plusieurs membres de son gouvernement, mais aussi des parlementaires, des représentants à la fois des collectivités locales, des organismes de sécurité sociale, sans oublier les fameux partenaires sociaux. L'occasion ou jamais donc d'amorcer cette méthode dite de co-responsabilité avec les Français. Qu'il a souvent lui-même prôné avant de prendre les commandes du gouvernement. Sans compter qu'ils ne seront sans doute pas de trop pour résoudre une équation ingrate. Comment réaliser 40 milliards d'euros d'économies en 2026? Le tout en s'appuyant sur une base qui n'a plus aujourd'hui de socle que le nom, tant les fissures semblent chaque jour un peu plus béantes et qui plus est sous la menace d'une censure à l'Assemblée. Marie Viennot, bonjour. Est-ce que vous nous entendez, Marie?
Oui, je vous entends très bien.
Vous vous trouvez donc avenue de Ségur dans le bâtiment qui abrite les services du Premier ministre où il a donc délivré son discours. Un discours, Marie, placé sous le signe de la vérité.
Oui, la vérité permet d'agir. C'est avec cette phrase affichée en grand à l'arrière de son pupitre que le Premier ministre a délivré un discours de 40 minutes, graphique à l'appui. François Bayrou a livré son diagnostic qu'il a articulé en gros autour de 3 constats. Nous ne produisons pas assez, nous ne travaillons pas assez, nous dépensons trop par rapport à nos recettes. Le PIB par habitant en France est inférieur à 30% de ce qu'il est aux États-Unis, 15% pour l'Allemagne. Si nous étions au même niveau, assène François Bayrou, nous n'aurions pas de déficit. Alors de ces vérités révolutionnaires, pour reprendre les lignes Trotsky qu'il a lui-même citées, le Premier ministre n'a dégagé aucune conclusion ni mesure, mais il a volontiers joué la carte de la dramatisation. C'est de la survie, l'indépendance et même la paix civile en France qu'il s'agit. Après lui, plusieurs ministres sont venus rapidement, graphique à l'appui également, apporter leur analyse. Pour Éric Lombard, ministre de l'économie, le problème c'est la productivité qui a décroché. Il faut donc réinvestir dans le savoir-faire, l'innovation. Après lui, Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, a énuméré quelques règles de bon sens. L'État doit agir efficacement, l'intérêt général doit l'emporter. Mais elle a aussi cité les arrêts maladie comme cible de réduction de la dépense. Catherine Vautrin, la ministre du Travail, de la Solidarité, de la Santé et des Affaires sociales, a fait, elle, un point sur la démographie. En 2040, il y aura 1 million de personnes âgées dépendantes en plus, alors que la population active va stagner. De tous ces diagnostics, nous tirerons peut-être prochainement des conclusions. Se sont ensuite exprimés les ministres du Travail et de l'Aménagement du Travail, de l'Aménagement du Territoire, pardon.
Et au-delà des déclarations, qu'est-ce qu'il faut en retirer de concret, Marie?
Eh bien, le calendrier du budget va être modifié. Il sera toujours présenté en septembre, mais avant le 14 juillet, on aura ses principales orientations. D'ici là, les parlementaires seront davantage associés à la construction des budgets, ainsi que tous ceux et celles présents dans la salle. Vous les avez cités, collectivités locales, partenaires sociaux, représentants de la sécurité sociale. Nous voilà donc fixés sur un point. Ce n'est pas à la rentrée, mais avant de partir en vacances, que les Français et les Françaises sauront comment les vérités exposées ce matin se traduiront concrètement dans leur porte-monnaie ou dans la réduction des services publics.
Merci Marie Viennot ainsi qu'à Frédéric Quérault pour les moyens techniques. Alors parallèlement à ce comité, le gouvernement s'apprête à présenter demain, cette fois-ci en Conseil des ministres, son plan budgétaire et structurel à moyen terme, un document adressé à la Commission européenne et censé présenter la trajectoire pour les années à venir. Or déjà beaucoup s'interrogent, le gouvernement survivra-t-il à la présentation de ce budget dès lors que la France insoumise Insoumise et le Rassemblement National évoquent à nouveau la menace de la censure. Pour évoquer toutes ces questions, invité aujourd'hui de la rédaction, Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement National de la 4e circonscription de la Somme et par ailleurs membre de la Commission des Finances de l'Assemblée Nationale. Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur, merci pour votre invitation.
Et à mes côtés pour vous interroger, Antoine Marais du service politique de la rédaction. Bonjour Antoine.
Bonjour Thomas et bonjour Jean-Philippe Tanguy.
Bonjour monsieur Marais.
On vient d'entendre François Bayrou qui n'a pas fait d'annonce mais qui a dressé un constat, lancé des pistes pour prendre à témoin la classe politique et l'opinion publique. Le constat, la France dépense trop, les Français ne travaillent pas assez, la France ne produit pas assez. C'est un constat que vous partagez ?
C'est un interminable enfonçage de portes ouvertes qui ne veut strictement rien dire. On a l'impression que M. Bayrou découvre qu'il co-dirige la France avec M. Macron depuis 7 ans. Donc on n'a pas besoin d'un Premier ministre pour nous donner des leçons aux Français et pour expliquer ce qui serait bien, ce qui serait mal. On a besoin de savoir comment il va mieux piloter la dépense publique, quelles réformes concrètes il veut proposer aux Françaises et aux Français et quels arbitrages les parlementaires doivent faire. Nous expliquer que la France est ruinée par leur faute, nous sommes au courant. Et par ailleurs, moi, cette histoire que les Français ne travaillent pas assez, déjà, quand on regarde dans le détail, c'est pas tout à fait vrai. En réalité, c'est parce que beaucoup de Françaises et de Français, alors qu'ils voudraient travailler, sont au chômage ou qu'ils sont mis sur le côté, soit parce qu'ils sont considérés comme trop âgés, soit parce qu'ils sont en situation de handicap et que les entreprises, malheureusement, ne veulent pas leur donner leur chance. Bref, tout un tas de réformes qui n'ont rien à voir avec le fait que notre peuple ne travaillerait pas assez, nous avons un peuple travailleur, mais que les différents gouvernements ont pleurniché et n'ont rien à proposer.
Est-ce qu'il faut prélever plus ou dépenser moins ?
Il faut dépenser moins, il y a beaucoup de gabegies, de gâchis. D'ailleurs, on voit bien que les fonctionnaires, ceux qui rendent des services inestimables à nos compatriotes, par exemple les soignants, sont au bout du rouleau avec des situations de détresse sociale très inquiétantes, alors que nous n'avons jamais autant dépensé pour la santé des Françaises et des Français. Donc il y a bien une inefficacité de la dépense publique et que ce n'est pas aux soignants ou aux malades de faire des efforts, c'est bien la technostructure de l'État qui ne fonctionne pas. Nous avons beaucoup d'autres démocraties qui, avec moins de moyens publics, arrivent à mieux soigner, par exemple, mais aussi à mieux traiter les fonctionnaires. Parce que moi, ce qui m'inquiète sur le terrain, c'est que les fonctionnaires eux-mêmes n'en peuvent plus de cette bureaucratie qui les prive de vrais moyens de services publics et qui leur fait perdre un temps précieux.
Est-ce qu'il faut toucher aux retraites ? Je pense notamment à cet abattement fiscal de 10% pour frais professionnels, pour des retraités.
Oui, on peut poser la question des frais professionnels sur la table. On peut y réfléchir parce qu'effectivement, ça peut donner un avantage très important à des retraités aisés. Mais dans ce cas-là, il faut prendre en compte un certain nombre de services que rendent les retraités. Moi, je le vois bien dans la ruralité, ce sont essentiellement les retraités qui font tourner les associations, la fraternité, la démocratie territoriale. Donc là, ils ont des frais. Donc la question, une fois de plus, n'est pas de poser les uns aux autres, parce que je vois bien un nouveau débat qui m'inquiète, c'est qu'on essaie de faire croire, enfin le gouvernement, un certain nombre de lobbies, essaie de faire croire que la solution serait dans l'opposition entre les retraités qui ont cotisé toute leur vie, et les actifs. Donc on est en train de créer une nouvelle fracture sociale au sein de la société française, alors que bon, tous les Françaises et les Français qui nous écoutent savent bien que les retraités rendent beaucoup de services, aussi bien des services familiaux que des services à la société. Donc tout cela est désolant, parce que des gouvernants qui ont échoué essaient d'opposer les compatriotes les uns aux autres.
Le gouvernement lance une alerte budgétaire bien en avance, alors que le budget sera discuté à l'automne. Pour reprendre une expression fétiche au RN, quelles seront les lignes rouges au-delà desquelles vous pourriez voter la censure ?
Mais ce sont toujours les mêmes, c'est-à-dire il est hors de question d'augmenter les impôts des classes populaires ou moyennes ou de renier des droits sociaux essentiels aux Français. Là, par exemple, on en est à retirer une partie du remboursement des pansements. Enfin, c'est totalement pitoyable. Avant que l'État n'ait fait le ménage dans son fonctionnement, mais aussi un certain nombre de tabous que l'État refuse de voir. Par exemple, moi je suis rapporteur spécial sur le budget de l'Union européenne. Il y a 6 milliards d'euros qu'il va falloir trouver pour augmenter notre contribution l'année dernière, alors qu'il y a beaucoup de dépenses à la Commission européenne dont on pourrait se séparer, par exemple les représentations à l'étranger, les fonds pour l'élargissement, alors que personne ne veut d'élargissement, en tout cas une majorité de Français n'en veulent pas. Donc il y a beaucoup de dépenses qu'on peut réduire avant de s'attaquer aux droits sociaux, mais c'est toujours plus facile, et c'est un peu le sens malheureusement de l'intervention de M. Bayrou aujourd'hui, de faire culpabiliser les Françaises et les Français plutôt que les gouvernements prennent leurs responsabilités.
Et on terminera par ces mots. Merci Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement National de la 4e circonscription de la Somme et membre de la Commission des Finances de l'Assemblée d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous Antoine Marette.
Les millions de Carlos Tavares soumis une dernière fois à la colère des actionnaires.
Bien qu'écarté du groupe, Stellantis fin 2024 après des résultats décevants, la rémunération de l'ancien directeur général du géant de l'automobile devrait encore faire polémique aujourd'hui lors d'une Assemblée Générale. Plus exactement, le montant de son chèque de départ, plus de 34 millions d'euros au total. Delphine Schiltz, bonjour.
Bonjour.
Cette enveloppe semble pour beaucoup excessivement généreuse, compte tenu d'une part des performances opérationnelles médiocres et d'autre part des raisons avancées pour justifier sa démission.
Oui, revenons en détail sur les sujets de crispation. Tout d'abord, la rémunération de Carlos Tavares pour 2024. 23 millions d'euros, une enveloppe qui comprend 2 millions d'euros de salaire fixe, 500 000 euros de prestations retraite et 20 millions de primes. Or, ces montants sont calculés sur 12 mois, alors que le chef d'entreprise n'a pas travaillé en décembre, déplore le cabinet de conseil Proxinvest, pour qui il aurait fallu à minima donc retrancher ce mois. Mais les investisseurs tiquent surtout sur l'indemnité de départ que le patron doit toucher, un an de salaire fixe, soit 2 millions d'euros, conforme à la loi néerlandaise en cas de licenciement. Mais là encore, la pilule ne passe pas, car l'ex-emblématique directeur général est censé avoir démissionné, non pas à être licencié. Pour le cabinet Proxinvest, cette indemnité de départ est d'autant plus inacceptable au regard, je cite, des performances du groupe et de la situation d'échec dans laquelle se trouve Stellantis, avec en 2024 des bénéfices qui chutent de 70%. Pour clore l'addition mais pas le débat, il est également prévu que Carlos Tavares touche une prime d'objectif d'environ 10 millions d'euros, qui récompense ici une transformation de l'entreprise, notamment la mise en place d'une plateforme de production de voitures électriques avec des batteries à haute capacité. Il ne s'agit pas de bonus, mais d'une simple application du droit, se défend-on au sein du groupe automobile. Tout cela suscite des remous. Le cabinet de conseil Proxinvest ainsi qu'un petit actionnaire minoritaire appellent les actionnaires à voter contre lors de l'Assemblée Générale cet après-midi, mais ce vote n'est que consultatif.
Merci Delphine Schiltz.
Midi passé de 42 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
C'est l'un de ces conflits aujourd'hui assez largement oublié et pourtant depuis 2 ans, jour pour jour, le Soudan est plongé dans une guerre civile dévastatrice sur fond de lutte pour le pouvoir et de mainmise sur les ressources du pays. Un chaos effroyable, synonyme tout à la fois de nettoyage ethnique, de famine, d'épidémie, sans oublier l'exode. Depuis le 15 avril 2023, plus de 11 millions de personnes ont été contraintes de fuir leur foyer, faisant de cette crise la plus grande catastrophe de déplacés au 21e siècle. Alors bien entendu, les appels à un cessez-le-feu se sont multipliés en vain, de même les efforts de médiation sont restés sans effet, mais surtout la guerre au Soudan est aujourd'hui la pire crise humanitaire au monde, sauf qu'elle n'a pas l'attention du monde. Et c'est pour ne plus détourner justement le regard que Londres accueille ce mardi une conférence avec l'objectif de mobiliser toute la communauté internationale. Un véritable défi au Marwaman, tant cette guerre civile présente en réalité toutes les cicatrices d'une guerre par procuration.
Oui, et les forces loyalistes ont protesté contre la présence à cette conférence sur le Soudan de représentants de plusieurs pays impliqués dans cette guerre, comme le Tchad et le Kenya, mais surtout contre ceux des Émirats Arabes Unis, alliés indéfectible des rebelles. Les forces de soutien rapide, les FSR, menées par le général Mohamed Hamdan Daglo, alias Emeti, le soutien est politique, diplomatique et militaire, munitions, équipements modernes, envoi de mercenaires. Le soutien est total, notamment dans la région du Darfour. Un appui si important que les forces régulières, dirigées par l'autre général Abdel Fattah al-Burhan, ont ouvert un nouveau front en poursuivant les Émirats Arabes Unis devant la Cour de justice internationale. Khartoum accuse Abu Dhabi d'avoir enfreint la Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression du crime de génocide. Quant aux forces loyalistes, elles ne manquent pas de soutien. Elles peuvent compter sur l'Égypte. Al-Burhan a d'ailleurs été reçu il y a quelques mois par le président égyptien Al-Sisi. La coopération avec le Caire est précieuse, particulièrement en termes de renseignements. Khartoum dispose également de nombreux fournisseurs d'armes, comme la Turquie, qui lui vend des drones, Moscou et Pékin des avions de chasse, et le Qatar, un solide soutien économique et diplomatique. Cette guerre ne manque pas d'acteurs, ce qui pourrait la prolonger et faire peser un risque de partition.
Après avoir assiégé, dévasté, puis affamé l'enclave palestinienne, l'armée israélienne poursuit ses opérations au sol visant désormais à morceler la bande de Gaza en vue d'une éventuelle annexion, voire d'une colonisation du territoire. Cette stratégie est désormais affichée sans complexe par le gouvernement de Benjamin Netanyahu et ses alliés d'extrême droite, d'autant plus grâce au soutien du président américain Donald Trump. Une guerre décidément sans limite et dont l'objectif à terme serait d'empêcher toute possibilité concrète de création d'un État palestinien ou à tout le moins d'une solution politique. En attendant, est privée de tout, d'eau, de nourriture, de médicaments, la population gazaoui s'entasse comme elle peut parmi les décombres. Hier, le bureau des affaires humanitaires de l'ONU a prévenu: la situation humanitaire est maintenant probablement la pire depuis le début des hostilités il y a 18 mois. Michel Paul, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
En direct de Jérusalem, à l'évidence, les dirigeants israéliens estiment que seule la pression militaire permettra la libération d'un certain nombre d'otages, sauf que le mouvement de protestation des réservistes de l'armée pour réclamer au contraire la fin de la guerre continue lui à prendre de l'ampleur, rejoint en cela, Michel, par un certain nombre de personnalités.
Oui, les derniers en date à prendre part à ce mouvement de contestation, plus de 1500 réservistes et vétérans du corps des blindés de l'armée israélienne qui, dans une lettre ouverte, demandent eux aussi l'arrêt de la guerre à Gaza et le retour des otages par la voie diplomatique, avec parmi les signataires notamment l'ancien Premier ministre et chef d'état-major Ehud Barak. Auparavant, ce sont les réservistes et anciens parachutistes qui se sont joints au mouvement, également les vétérans du Mossad, l'agence de renseignement extérieur israélienne, notamment plusieurs anciens directeurs de cette institution. Il y a aussi des civils, notamment des prix Nobel israéliens qui apportent leur soutien. Le tout avait commencé la semaine dernière avec des centaines d'aviateurs. Ce sont d'ailleurs à ce stade les seuls à avoir été évincés de l'armée israélienne, bien que, point commun à toutes ces lettres ouvertes, elles ne font pas mention du moindre refus de servir dans le cadre de périodes de réserve. Et encore un point intéressant, Thomas. Selon Yedioth Ahronot, le chef d'état-major israélien prévient que le manque de personnel combattant devient critique. Seuls 60 à 70% des réservistes répondent à l'appel. Pour le général Eyal Zamir, il sera difficile d'atteindre les objectifs de la guerre fixés par le cabinet. Et le général en chef israélien conseille au ministre de renoncer à une partie de ce qu'il qualifie de fantasme sur Gaza.
Merci Michel Paul, correspondant de RFI pour France Culture en direct de Jérusalem.
Elle est la plus ancienne des universités aux États-Unis.
L'une des plus prestigieuses aussi. Et elle est à présent la première à ne pas plier face aux injonctions de Donald Trump qui lui demandait de mettre fin à plusieurs programmes, en particulier ceux favorisant la diversité. Mais parce que la célèbre université Harvard a donc refusé d'abdiquer son indépendance, eh bien hier la nouvelle administration américaine a aussitôt annoncé le gel de 2,2 milliards de dollars de subventions. Claude Guibal, bonjour.
Bonjour.
Alors rappelons qu'Harvard, comme d'autres campus américains, avait été le théâtre d'une forte mobilisation étudiante contre la guerre menée par Israël à Gaza, avant d'être ciblée donc directement par la Maison-Blanche depuis le retour au pouvoir de Donald Trump. Et à ce titre, Claude, la prestigieuse université n'est pas la seule aujourd'hui dans le viseur de Washington.
Oui, car au fond, c'est l'ensemble du système universitaire américain qui est visé. Donald Trump considérant les universités, plus précisément les plus réputées, comme le creuset, selon lui, de la pensée wokiste et marxiste à l'origine de l'effondrement des sociétés occidentales. Dès l'annonce des coupes possibles dans leur financement, ces universités se sont d'abord figées, sidérées. Certaines, comme Stanford et Columbia, ont gelé leurs embauches. D'autres ont supprimé des emplois. Près de 2000 à Johns Hopkins, l'un des fleurons de la recherche biomédicale. Johns Hopkins qui, depuis, pour limiter la casse, a abandonné un programme de 60 millions de dollars destiné à promouvoir la diversité dans les sciences. Cornell, Northwestern, Columbia, accusés de tolérer l'antisémitisme, ont même perdu des millions de dollars de financement, 400 millions précisément, pour Columbia, qui, espérant stopper la colère de Donald Trump, a annoncé des sanctions à l'encontre des étudiants impliqués dans les manifestations pro-palestiniennes sur le campus l'an dernier, des suspensions, des exclusions, des retraits temporaires de diplômes. D'autres universités plus petites, dont l'essentiel du financement provient de l'État, n'ont pas eu d'autre choix que de pratiquer l'autocensure. C'est le cas de Rutgers dans le New Jersey, qui a annulé dès l'investiture de Donald Trump une conférence sur les universités noires. Et puis, il y a encore celles qui tentent de lutter, comme à Boston, le MIT, engagé de son côté dans une bataille judiciaire probablement sans espoir contre le gouvernement.
Merci Claude Guibal. Comment oublier ces images d'un Danube déchaîné ou ces centaines de morts emportés, même engloutis par des torrents de boue à Valence en 2024. L'Europe a connu non seulement une chaleur record, mais également ses pires inondations depuis plus d'une décennie. Toujours plus qu'hier donc, et probablement moins que demain. C'est ce qui en sort du dernier rapport de l'Observatoire Copernicus publié ce matin. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, marqué par l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui affectera l'ensemble du pays. Quant aux températures, elles seront comprises entre 10 et 19 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Caroline Desrosiers et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.